m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Dans son livre, il y a un poulpe, ou plutôt une poulpe, dont l'ambition et le grand jeu est d'atteindre, voire de dépasser la frontière. Et ce qui l'intéresse, c'est, je cite, « de bouleverser les ordres, les règnes et les genres, en les traversant tous aussi aisément qu'en nage libre ». Alors, je ne sais pas si Céline Minard a déjà rêvé d'être une poulpe. Ce qui est certain, c'est qu'elle s'y connaît en nage libre et en dépassement de frontières. Son nouvel ouvrage nous fait passer d'un monde à l'autre. D'un battement d'ailes de papillon, on passe des confins de l'univers aux abysses de l'océan, d'un laboratoire californien à l'hôtel Casino dans l'Ac Suisse, d'une forêt peuplée de grands singes à un élevage de chevaux miniatures en Sibérie. Un livre étonnant, à la fois organique et technologique, qui, sous couvert de récits d'anticipation, nous parle de nous, de notre rapport au temps, aux plantes, aux animaux, bref, à la nature. Plasma de Céline Minard est paru aux éditions Rivage, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Céline Minard.
Bonjour.
Je ne sais pas trop pourquoi, mais quand j'ai commencé à lire votre livre, à la fin du premier chapitre, j'ai eu envie d'écrire un mot. Et j'ai écrit le mot « perturbant ». À la fin du deuxième chapitre, j'ai écrit « original », j'ai continué ainsi à écrire un mot, un seul, en bas du dernier paragraphe de chacun des chapitres. Alors, il y a eu « étrange », émouvant, terrifiant, et ainsi de suite. Est-ce que quand vous écrivez, Céline Minard, vous avez envie de déstabiliser vos lecteurs?
Oui.
C'est ça, c'est l'objectif principal. Ah, ça, c'est une réponse. Vous ne pensez pas qu'elle serait aussi directe que ça?
Oui, j'ai très envie de les désorienter, en tout cas. Pas de les perdre, parce que ça, c'est jamais bon tout à fait pour un auteur, mais de les faire douter de leurs habitudes de repérage et peut-être même de leurs habitudes de lecture. Et de comment ils se repèrent dans un texte, parce que lire, c'est quand même une affaire spatiale, je pense, tout d'abord, dans le paragraphe, dans la page, et puis dans le volume. Et j'aime assez moi-même, en tant que lectrice, être désorientée quand j'aborde un texte.
Parce que c'est un moyen d'accéder à la connaissance, c'est un élément de curiosité qui vous permet d'avoir envie, justement, de passer à la ligne suivante.
Parce que quand on l'est désorienté, je pense qu'on est déjà dans l'exploration et dans une forme de recherche, et que la lecture pour moi c'est ça, l'écriture aussi. La littérature en fait c'est ça. C'est la poulpe qui passe à travers tous les règnes comme en âge libre.
Voilà, donc vous auriez aimé, je vous pose la question, vous auriez aimé être une poulpe, Céline Minard?
Comme celle que
vous décrivez dans le livre,
comme celle que je décris dans le livre, j'aimerais tout un tas de bestiaux, moi. Et j'ai jamais rêvé d'être une poulpe, en revanche j'ai réellement rêvé que j'étais un bébé huître une fois, alors une huître sans coquille, comme ça, qui se balade. C'était assez étonnant comme rêve.
Mais c'est vrai qu'on vous sent très très proche des animaux, très très proche du monde animal. C'est pas la première fois d'ailleurs.
C'est pas la première fois, il y a des animaux dans tous mes livres. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est leur mouvement, parce que c'est par leur mouvement que passe leur pensée, et qu'il y a quelque chose là qu'on pourrait peut-être pas lire, mais peut-être pas décrypter, mais sentir et peut-être entrer en contact avec quelque chose de l'ordre du corps et de l'être au monde.
Alors, vous disiez à l'instant que vous vouliez désorienter les lecteurs et les lectrices, Céline Minard. Et c'est vrai que rien que la forme du livre désoriente. Alors, en même temps, il y a aussi des livres avec des textes complètement éclatés, avec des photos, avec des schémas. C'est pas du tout ce que vous avez choisi de suivre. Mais en fait, on a l'impression au départ de lire un roman. Ensuite, on se dit que non, on se dit que ce serait plutôt un recueil de nouvelles. On se rend compte ensuite, au fur et à mesure de la lecture, qu'il y a des ponts, des rebonds, des correspondances entre les différents chapitres, des connexions entre les textes. Alors, on se dit que c'est sans doute pas tout à fait dû au hasard. Et on se dit très vite que tout ce que vous écrivez doit être savamment étudié, pesé au trébuchet, articulé de façon extrêmement précise. Dans l'un des chapitres, il y a un personnage qui s'appelle Agob Bates, et qui observe un insecte au microscope, Céline Minard. Et vous écrivez qu'il travaille, je cite, « comme un insecte autour d'un autre insecte ». Est-ce que c'est comme cela que vous avez écrit ce livre?
Je ne sais pas, mais c'est intéressant, oui, effectivement. En tout cas, c'est effectivement passé beaucoup par l'observation, ou en réel, ou en vidéo, enfin, etc. Et c'est vrai que je fais des recherches assez poussées à chaque fois, parce que j'aime le vocabulaire technique et qu'il est irremplaçable et qu'il est aussi poétique, qu'il a une dimension sonore et une dimension concrète qui est très importante, je pense, pour le texte. Effectivement, il y a une danse de quand Agobet, c'est un lithopréparateur et un paléontologue. Donc
alors, un lithopréparateur, faut peut-être expliquer ce que c'est.
Oui, d'accord. Alors il prépare des fines couches de d'ossements pour les observer au microscope.
Voilà. Donc, c'est celui qui prépare des fines couches sur les lamelles de verre, comme ça, qu'on place ensuite sous l'objectif des microscopes.
Voilà, pour y lire, pour dater, pour un tas de choses, quoi. Et donc, c'est quelqu'un de très précis, évidemment, et de très scrupuleux, de profondément scientifique. C'est un type très objectif.
Un peu comme votre écriture. Scrupuleux, scientifique, alors objectif sans doute pas, mais il y a justement ce souci de précision, de façonnage. Vous employez aussi une autre métaphore à son propos, toujours au sujet d'Agope, hein. Aussi méthodique et tendu qu'un bousier pilulier en plein façonnage.
Voilà, c'est ça.
Donc votre terre glaise à vous sont les mots.
Ce sont les mots en tant qu'ils se réfèrent à quelque chose. Mais ce sont les mots, oui, effectivement. Et j'ai un rapport plastique à la langue, ça c'est sûr. Mais j'allais ajouter à propos d'Agope qu'il est comme ça, très scientifique, très carré. Mais en même temps, il rentre tous les matins dans son musée, qui est le Tar Pit de Los Angeles. Et il a l'impression de rentrer dans une bulle de temps. Et il est complètement, il vit à l'ère glaciaire, donc il est complètement perché aussi, d'une certaine façon.
Oui, c'est-à-dire qu'il s'immerge complètement dans son sujet, voilà. Dans sa thématique, la science, la découverte, c'est sa vie, c'est pas seulement son métier.
C'est ça.
Et c'est un petit peu comme vous avec la littérature, Céline Minard.
C'est possible, effectivement. Moi, je travaille beaucoup par immersion quand j'aborde un milieu, en fait, parce que c'est aussi comme ça que je le pense. Il faut vraiment que je me plonge dans cet environnement, dans l'environnement, et m'y plonger vraiment tout le temps. Enfin,
c'est-à-dire que là, par exemple, pour le plasma, vous êtes nourri d'ouvrages scientifiques en tout genre, alors je ne sais pas, l'anthropologie, la paléontologie, de la botanique, de la mécanique des fluides, de la cosmologie, que sais-je.
Oui, j'ai été chercher dans beaucoup d'endroits différents et beaucoup d'abord des problématiques différentes aussi.
Mais avec des idées précises en tête pour la recherche, ou bien vous vous nourrissez c'est tout et c'est ensuite que naissent vos idées.
Avec des directions précises pour chacun des chapitres ou des nouvelles ou des textes, en fait. Et la seule idée, c'est de sentir. Parce que c'est très concret. Mes recherches sont toujours très concrètes. C'est dans le détail qu'on arrive à atteindre quelque chose qui fait cet effet de réel. Et ce que je cherche à avoir, c'est une perception différente de la mienne habituellement, et peut-être différente de celle de l'humain en général.
Donc il faut désorienter le lecteur, mais vous aimez bien désorienter vous-même.
Ah oui. Ben, si j'arrive à désorienter le lecteur, c'est que je l'ai été moi-même et que j'arrive à le rendre.
Mais alors ces mots qui forment votre livre, que vous assemblez de façon aussi méthodique et tendue que ce bousier pilulier, pour reprendre votre métaphore, Céline Minard, donc ces mots sont votre matière première à vous, ils viennent comme ça naturellement sous votre plume à l'issue des recherches qu'on vient de décrire, ou bien est-ce que vous allez les chercher, les choisir avec soin, est-ce que vous en prenez quelques-uns, vous les écartez, vous en reprenez d'autres? Comment vous façonnez tout ça?
Non, je ne les choisis pas. C'est une fois qu'ils ont été digérés et percolés qu'ils ressortent tout seuls. Mais c'est parce que sinon, il faut que je les ai compris, c'est-à-dire pris avec moi, et qu'ils se soient même transformés, voire légèrement déplacés.
Alors le mot plasma que vous avez choisi comme titre, vous l'avez écrit au pluriel d'ailleurs, ce n'est pas totalement innocent, c'est un mot très pratique. Est très plastique aussi, d'une certaine façon, Céline Minard, parce qu'il est à la fois organique et technologique. On pense aux écrans plasma, par exemple, on pense aussi au sang. C'est donc le sang et le numérique. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le plasma, c'est aussi le quatrième état de la matière. Et oui, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ça ouvre des univers absolument insoupçonnés.
Oui, et un petit peu dérangeant. C'est un titre génial parce que c'est mon éditrice qui me l'a proposé. Et dès que je l'ai entendu, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Parce qu'il est aussi très performatif dans le sens où il produit cette substance plasmatique qui réunit toutes les gamètes que sont les textes du livre. Et il a cette triple entrée et cet état qu'on ne fréquente pas souvent de la matière, effectivement.
Alors quand, comme moi, on n'a pas vraiment l'esprit scientifique, on se demande parfois si les mots que vous employez sont des mots réels, d'une extrême précision scientifique, ou bien si ce sont des mots que vous avez tout simplement inventés. Alors je crois qu'il y a les deux cas se produisent hein, au fil de la lecture. Donc vous avez par exemple parlé du lithopréparateur, donc ça je connaissais pas, je suis allé vérifier et j'ai appris quelque chose. Un drachon, par contre, j'ai rien trouvé.
Non, oui. Un drachon, c'est une chimère, oui.
C'est une chimère, oui. Donc c'est une chimère qui est née sous votre plume.
Oui.
Bon, comment est-ce qu'il vous est arrivé ce mot ?
Ah, le drachon tout seul. Hein.
Tout seul ?
Oui, oui, sur ses petites ailes, comme ça, paf, il s'est posé.
Mais ça drachon, ressemble à quoi, un drachon ?
Bah, un dragon, un chaton, un drôle de mélange, quoi.
Voilà, donc c'est-à-dire que c'est la réalité de la bestiole, en quelque sorte, qui vous a conduit à l'adoption de ce mot.
Oui. Oui, oui, non, mais ça apparaît vraiment tout seul. C'est pas un problème. C'est pas, enfin, je veux dire, je fais pas de recherche.
Bon, et les arrécifs ?
Les arrécifs aussi, mais ça c'est plus étymologique, donc, puisque c'est un mot arabe qui veut dire récif. Donc dans le milieu.
Voilà, c'est le chapitre sur la poule, pour l'occurrence.
Voilà, hein. Voilà, c'est le milieu immergé dans l'eau là.
Bon, alors justement, vous dites une poulpe. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude de dire un poulpe. Mmh. Vous dites aussi une animal avec un E, et ce sont des mots qu'on utilise assez rarement au féminin, qui sont parfaitement français, mais qu'on utilise assez rarement au féminin. Vous êtes favorable à une sorte de regenrisation des mots, puisqu'on en est au néologisme ?
Oui, enfin, c'est pareil, ça s'impose. Et puis, une animal, je suis pas la première à l'avoir écrit, puisque Monique Wittig en mettait partout dans ses livres, des animaleux.
Oui.
Et disons que ça aussi, c'est un léger déplacement qui change complètement la perspective. Et j'aime beaucoup ça, ces petites choses qui bougent des grands pans. Parce que le genre, c'est tellement imposant que dès qu'on y touche, tout glisse.
Oui, tout glisse, effectivement. Mais ça veut dire que pour vous, Salimina, le genre de l'être vivant que vous décrivez, que l'on retrouve dans vos pages, doit déterminer le genre du mot. Il doit y avoir une sorte d'osmose, comme ça, entre
oui,
la langue
c'est,
et...
c'est pas mal quand ça correspond.
Et l'organisme.
Oui. C'est pas mal, parce que voilà, enfin, on sait maintenant que les femmes ne sont pas des hommes.
Donc vous êtes une écrivaine, vous êtes
une autrice.
Ou une auteure, vous préférez quoi ?
Autrice.
Autrice. Bon, plasmode, c'est un mot qui existe aussi, hein, pour revenir à ce livre intitulé Plasma et paru, je le rappelle, aux éditions Rivage. Alors on en trouve un plasmode dans un chapitre intitulé Grand chien, qui nous emmène en Sibérie avec Aliona, qui s'occupe d'un élevage de chevaux au sein d'un centre de recherche. Avec ce plasmode et ses éprouvettes, elle a su produire de bons croisements et d'excellentes montures, des chevaux miniatures qu'elle parvient à cloner, ce qui assure une certaine rentabilité à l'élevage, sauf que tout va finir par déraper. Nous sommes à la page 72 de votre livre.
Aliona Ilinichna ressentit sans raison une indéfinissable gêne. Elle n'aurait peut-être pas dû mettre Siriakov en contact avec le plasmode. Elle savait qu'il avait horreur de cette chose qui n'était ni un lichen, ni un animal, ni un végétal, et pas même un organisme à proprement parler. Il avait toujours montré beaucoup de réticence à le nourrir et à rester seul en sa présence. Il ne manifestait que du dégoût devant ses facultés. Se déplacer sans l'aide de membres, réfléchir sans cerveau, vivre sans cœur, ne pas mourir était pour lui d'insupportables absurdités. Elle eut un mauvais pressentiment en entendant claquer la porte de la salle de soins derrière elle. Elle savait que les petits chevaux, en dépit de leur perfection phénotypique, étaient des animaux inédits, en partie imprévisibles. Elle s'était attendue dès le début à la variation de certains caractères, le renforcement de leur socialité, la recomposition hiérarchique du groupe, l'altération de la réponse au stress. Sous leur apparence de chevaux miniatures, ils tenaient du loup sibérien. Leur réflexe de fuite était doublé et contredit par une pulsion prédatrice. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était comment le plasmode lui-même avait transmis ses compétences génétiques. Siriakov traversa la cour en chancelant. Un poids contre lequel il luttait semblait tirer son bras vers le sol. Aliona, au milieu du pré, entourée de ses 50 petits amours parfaits, le regardait avancer, le souffle coupé. Il était seul en mouvement dans un monde qui s'était coagulé. Lui et la masse informe qui enserrait sa main et son bras jusqu'à l'épaule et projetait autour d'elle des cires et des flagelles vigoureux. Il giflait l'air avec des claquements et des sifflements de cravache. Siriakov avançait, aveuglé par les coups et les tentacules furieux agrippés à ses cheveux. Il ruait. Il lançait son bras loin de lui qui lui revenait en pleine face. Il tanguait. Le plasmode grouillait et grognait par sa voix. Aliona, immobile, médusée, attendait sans penser. absente à tout ce qui n'était pas l'implacable progression à laquelle elle assistait. Absorbée, assouvie, hors d'elle. Elle se rendit seulement compte qu'elle retroussait les lèvres sur ses dents, avec tous les petits chevaux autour d'elle, au même moment, et qu'elle aspirait à plein poumon l'odeur affolante des spores sexuels, du plasmode à maturité.
Ouais, pour tout vous dire, c'est à la fin de ce chapitre-là que j'ai inscrit le mot terrifiant, c'est Minard. Alors, on a l'impression là, d'assister à la naissance d'une chimère, c'est exactement ça. Une de plus, parce qu'il y en a quand même quelques-unes aussi dans votre livre. Et c'est l'homme, c'est l'être humain qui a le dessous. C'est ça aussi ce livre, c'est une façon de nous dire que nous, hommes, femmes, ben on est finalement bien peu de choses.
Oui, et qu'on est capable d'évoluer, même si on n'a pas très envie, comme Siriakov à ce moment-là. Oui, effectivement, le plasmode, c'est un peu l'élément de sauvagerie pure, informe, il est informe, c'est un être unicellulaire qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas de cœur, qui est tout ça, et qui s'est déjà mélangé aux petits chevaux et aux gamètes de loup sibérienne et qui a fait un mixte avec tout ça en rentrant dans les petits chevaux, qui sont un petit peu bizarres. Et l'homme, eh ben, va être effectivement contaminé lui aussi, enfin pris, digéré, englobé, par cette sauvagerie qui n'est pas grand chose au départ.
Ah oui, c'est ça, une substance, comme vous le disiez, unicellulaire, qui ne ressemble à rien, qui n'est pas du tout intelligente et qui pourtant est plus forte que l'homme.
Et oui, elle va le digérer en quelque sorte et le transformer. Alors, Siriakov n'est pas d'accord, mais Aliona est peut-être un peu plus réceptive.
Oui, même si elle s'en mord un petit peu les doigts quand même,
Céline Minard. Non, la fin du chapitre,
elle est ouverte. Elle est souvent ouverte, la fin de vos chapitres, Céline Minard. Comme si vous vouliez justement, pour revenir à la dimension désorientation du lecteur, comme si vous vouliez un peu laisser les choses en suspens.
Absolument, elles sont toutes ouvertes, elles sont toutes prises dans une trajectoire de comme une balle lancée qui monte et on arrête avant que ça retombe. Parce que de toute façon, on sait ce que ça va donner. Et puis, je voulais vraiment enchaîner les suspens et faire dégringoler les histoires les unes dans les autres. Que ça s'articule aussi comme ça, dans un mouvement d'avalanche et de rebond.
Oui, un petit peu comme ces acrobates qui sont dans le premier chapitre du livre et que vous présentez justement en plein vol et point d'interrogation, quoi.
Et point d'interrogation.
On ne sait pas si ça va bien se passer, s'ils vont tomber ou pas. Ce qui est un petit peu inquiétant quand même, c'est que dans le dernier paragraphe du chapitre, il y a le mot faille.
Oui.
Qui intervient comme par hasard pile à ce moment-là. L'être humain aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, Céline Minard, il est un petit peu cet acrobate en suspension, sans savoir s'il va ou non retomber sur ses pieds.
Oui, alors malheureusement, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui en ont conscience de cette suspension, et qu'effectivement, on est tous au milieu de l'explosion, et qu'on est là, à ce moment-là, en l'air, et que peut-être un petit coup de pied... dans un sens ou dans l'autre, changerait tout.
À la merci d'un coup de vent ?
À la merci d'un coup de vent, à la merci d'un raz-de-marée, à la merci d'une grosse inondation, d'une explosion de volcan, à la merci d'un tas de choses, à la merci d'un virus.
Oui, alors justement, au passage, on a plusieurs allusions à la période que nous vivons. Il y a le mot confinement, par exemple, Céline Minard. Alors c'est étonnant parce qu'on se dit que vous avez peut-être écrit le roman avant, enfin le roman, le livre, parce qu'on ne sait pas trop si c'est un roman d'ailleurs, le livre avant la période. Il y a des masques chirurgicaux. Alors, pas du tout dans le même contexte celui que nous vivons. Vous parlez aussi des restrictions de déplacement. Je vous cite, « Plus aucun humain n'est autorisé à circuler sans sa gaine électro-organique connectée. » Donc on peut penser là au masque ou peut-être au pass sanitaire. J'en sais rien. Le virus, le confinement ont pesé sur l'écriture du livre ?
Mais en fait, tout ce que vous citez là, le confinement et les masques chirurgicaux, ça a été écrit avant.
Rien à voir. C'est encore plus terrifiant.
D'une certaine. Et quand je les ai relus pendant le confinement, parce que j'ai continué pendant le confinement l'écriture de ce livre, mais tout à coup, ça sonnait tout à fait autrement, et c'était assez glaçant, oui.
Mais alors, ce livre qui est donc entre nos mains, c'est un livre sur le monde d'aujourd'hui, sur le monde d'avant ou sur le monde d'après, Céline ?
Sur tous ces mondes-là et sur les mondes possibles, et effectivement, comme je pense qu'on est durant l'explosion, ce sont des vitesses relatives et des vitesses absolues complètement contradictoires, et qu'on a presque accès à tout ça là, en même temps.
Au début de l'épidémie de coronavirus, on évoquait le monde d'après, justement. On disait « rien ne sera plus comme avant ». Et aujourd'hui, on se dit qu'on aimerait bien revenir au monde d'avant. Justement, c'est liminaire. De quel côté de la faille, si j'ose dire, êtes-vous tombé ?
Mais je crois que je suis pas tombée et qu'on est dans la faille. Et qu'on n'est pas encore tombé, mais là, on est dans le monde de pendant.
Donc, on est comme ces acrobates, justement.
Comme ces acrobates, exactement. On va voir, je ne sais pas à quelle vitesse on va le voir, mais on va sûrement le voir de quel côté on va tomber.
This is all wrong. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Right here, right now, 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 right here, right now.
Right now, Fatboy Slim qui a samplé la voix de Greta Thunberg que vous avez immédiatement reconnue, c'est le mineur. Greta Thunberg lors de son fameux discours aux Nations Unies le 23 septembre 2019. Et on la reconnaît, Greta Thunberg, dans l'ultime chapitre de votre livre. Vous l'appelez la Queen, K-U-I-N. Nous sommes à la page 146.
Elle a commencé à parler au début de son deuxième tour du monde, quand la boule de verre liquide, fissurée au pôle et au dorsal pacifique, était devenue trop fragile pour être manipulée. Quand les costumes des adultes ont commencé à rétrécir et à laisser sourdre le doute, à montrer leurs jambes grêles, leurs bras inutiles, leurs coups épais. Quand les puissants parmi eux sont apparus tels qu'ils étaient sur les écrans, dans les meetings, aux réunions capitulaires mondiales, essoufflés, étranglés par leurs cravates et leurs sautoirs, entravés par leurs chaussures, bardés de prothèses, inaptes. Elle a parlé pour dire ce qu'elle voyait. Qu'elle acceptait de voir ce qu'elle voyait, qu'elle en fournissait la preuve. Et tout le monde le vit alors avec elle. Les habits de l'empereur étaient loin d'être neufs. Ils n'étaient pas beaux, pas somptueux, pas puants non plus, pas simplement décousus ou arrachés par les chiens. Le roi, devant les yeux dessillés, le roi était nu. Le roi était disparu. Avec lui, la confiance, le guide, le recours, la possibilité de la haine légitime, de la cour, de l'obéissance, du sommeil. Les puissants parmi les adultes, ou ceux qui voulaient l'être, ont fait ce qu'ils pouvaient pour se couvrir. Ils ont invoqué, ils ont tempéré, ils ont pris de haut, ils ont ironisé, et ils ont continué à poser leur cul, leurs couilles, leurs chattes et leurs coudes sur les meubles garnis et cirés des réunions plénières, sans se voir entre eux, sans se voir eux-mêmes. Nus comme ils étaient, bien serrés, ils n'ont pas senti le courant d'air. Ils n'ont pas compris qu'il soufflait des banquises et des forêts en même temps, qu'il réunirait ses forces au-dessus des continents qu'il balayerait devant lui en soulevant beaucoup de poussière. Ils n'ont pas vu le coup partir, les papillons disparaître avec leurs biographes dont ils n'avaient que faire, les chiens grandir, les virus grouiller dans les peaux de chagrin ratatinées, la croûte terrestre galeuse fourrée jusque dans ses rides les plus profondes. Le sable qui s'était transformé en ciment, les plages en glissement de terrain, les eaux en mercure, les sauterelles en vaisseau. Ils ont refusé de voir ce qu'ils voyaient. La jeune fille à police, trop calme, qui leur tendait le monde tel qu'il était, un miroir où ils auraient pu se reconnaître et toucher leurs plaies comme font les grands singes et les éléphants sauvages. Elle sortait de nulle part. Elle tombait du ciel en vol libre au beau milieu de leur grand conseil sans prévenir. Elle se taisait dans les hémicycles jusqu'à capter l'objectif des caméras et l'oreille des faunes. Ils firent des selfies et des portraits d'auteurs à ses côtés, arborant leur taille et les élégants costumes d'un monde disparu. La queen était un bloc, une pionnière sans bonnet ni œillère, sa tresse de squasachim contenue dans ses bras croisés. On ne pouvait rien en tirer. Les sourires se sont effacés, le sérieux a pris la pose, puis la condescendance, la réprimande, les tentatives d'intimidation, la menace.
Elle s'est imposée comment dans ce récit, cette figure de Greta Thunberg que vous ne nommez pas, hein, on le répète, Céline Minard, mais quand on comprend le fond du discours, et quand vous parlez de la tresse, on comprend tout de suite évidemment que c'est elle. Comment son visage et ses mots sont apparus dans votre récit ?
Ils sont apparus au tout début, en fait. Et voilà, je savais que ce serait ce personnage inspiré de Greta Thunberg qui aurait le dernier mot et qui aurait le dernier discours aussi. C'est apparu dès le début. Je ne savais pas comment j'allais arriver là et par quelle métamorphose j'allais passer et ce qu'elle allait dire, effectivement. Mais elle était là depuis le début, depuis les acrobates.
Oui, parce qu'en fait, ce dernier chapitre-là, c'est celui qui donne les clés de l'ensemble du livre, quoi, qui permet de, on va dire, d'assembler l'ensemble des fils et d'avoir une vision complète de ce que vous avez voulu dire à travers le livre. Au passage, on est frappé par la duplicité des gens de pouvoir, qu'il s'agisse des politiques ou bien des chefs d'entreprise, du monde de l'économie, du monde des puissants, quoi. C'est aussi ce que vous dénoncez à travers ce livre. Pas en vous cachant justement, mais enfin en accompagnant le discours de Greta Thunberg.
Je suis frappée que vous parliez de duplicité. Ils le sont guère en fait. Il y a une communication.
C'est-à-dire qu'ils font des selfies avec elle,
oui.
Et derrière il se passe rien.
Mais c'est ce qui se passe. C'est pareil. Ça, ce sont des faits. Là où le personnage est absolument puissant, c'est que c'est un mur. On ne peut rien en tirer. Effectivement, et elle parle des faits. Et comme elle le dit, les faits sont là, mais ils ne s'imposent pas. Et tant qu'on ne veut pas les voir, on ne les voit pas. Et c'est complètement contradictoire. Mais quant aux puissants et à leurs actions ou à leurs non-actions, c'est pareil, c'est un fait.
Oui, c'est un fait. Mais alors, donc, tout le processus qui a été engagé, en particulier lors de la conférence de Paris, tout ça, vous dites que c'est du flan ? Que c'est du vent ?
Ben, ce sont des mots. Pour le coup, c'est pas de la littérature.
C'est un manifeste écologique que ce livre, Céline Minard. C'est une mise en garde.
Je sais pas. Je pense que le dernier monde que j'ai écrit il y a une quinzaine d'années était une mise en garde et une conjuration. Celui-là, c'est presque juste une sondée ou des coups de sonde dans un monde qui est là.
Parce qu'on sent à un moment donné, on sent qu'il y a eu ce qu'on pourrait appeler une grande catastrophe. En tout cas, le constat que la planète Terre n'était plus vivable, on le sent très vite, hein, dès le deuxième chapitre que vous avez intitulé « Boule à neige ». Alors on peut trouver ça un peu kitsch, un peu drôle, les boules à neige, on peut trouver ça très très mignon, hein, on la retourne et apparaît comme ça une image un peu féerique, voire merveilleuse, une image un peu archétypale, sauf que là, dans votre livre, cette image, c'est vraiment le souvenir d'une planète perdue. Et là, on se dit, ben, c'est pas beau une boule à neige, finalement. C'est terrifiant, pour reprendre ce mot.
C'est terrifiant. Je crois que c'est très beau. Comment on est fasciné par les destructions, de toute façon, que ce soit les volcans, les grands, les énormes incendies, c'est absolument fascinant et ça ne devrait pas l'être. Et je pense que la boule à neige où se déroulent les animations de ce qui s'est passé, est une sorte de micro-spectacle qui est lui-même fascinant. Voilà, après, quand elle apparaît, cette boule à neige, enfin elle apparaît à plusieurs endroits, les gens sont déjà lassés de ce spectacle-là. C'est une génération d'étudiants qui est de toute façon hors sol, qui est née hors sol et qui...
Oui, qui n'a pas connu la Terre. Hors sol dans tous les sens du terme.
Hors sol, oui. Ils savent pas ce que c'est
sans
que
racine,
la... Sans racines et sans poids pratiquement. Ils savent pas ce que c'est que la gravité, ils ne savent pas ce que c'est que se déplacer dans un monde ouvert, réel. Et ils regardent ça en disant, bon, la prof, elle nous fatigue.
Oui, alors je vous cite toujours, Céline Minard, la Terre s'est étouffée sur elle-même. Elle a mal réagi aux tentatives de réajustement. C'est dans ce chapitre-là que vous écrivez cela. Est-ce à dire que toute forme de réajustement est vain aujourd'hui et que la solution, c'est la radicalité, quoi, changer complètement de monde et de comportement?
Non, en tout cas, la solution, c'est pas du tout la fuite, contrairement à ce qui est mis en scène dans, enfin, pour moi, hein, c'est pas du tout la fuite. Ça, c'est la vraie impasse et l'illusion majeure.
Oui, la planète B, etc. Faut pas y croire.
Non, elle existe pas, hein, pour l'instant. Et puis, voilà, quelle drôle d'idée. Non, je pense que s'il y a encore des choses à faire, j'imagine, enfin, pour essayer de continuer à respirer. Et il y a peut-être des tunnels d'oxygène à creuser, des inventions, des chimères à monter, à faire émerger.
Alors tout n'est pas complètement négatif hein, dans l'avenir quand même, que vous dépeignez dans le livre, Céline Minard. Il y a même des scénarios qui sont beaucoup plus roses. Par exemple, il y a un chapitre que j'ai trouvé absolument magnifique intitulé « Les ricochets ». Il y a une dimension très, très poétique aussi. On a un peu l'impression là que l'être humain a progressé, qu'il a appris à se méfier de son hubris. Hein, le mot est d'ailleurs dans le texte. Donc, à se méfier de son orgueil, de son esprit de puissance, de son excès de pouvoir, de la démesure. Le personnage de ce chapitre s'appelle Garwan. Il vit sur une planète qui s'appelle Ostia. Il adore faire comme ça des ricochets avec un vrai galet, V-R-E-G-A-L-E-T, donc une petite pierre qu'il a polie amoureusement pendant des heures, et il vit en harmonie avec la nature, avec ses plantes, qu'il fait pousser dans une serre. Alors, il leur parle à travers un idiophone quand même, mais bon, il y a une vraie relation extrêmement sensuelle entre lui et ses plantes. C'est très, très étonnant.
Mais je pense qu'il y a... Oui, effectivement, la notion de sensualité, comme la notion de concret et de matériel, est très présente dans chacun des textes. Et lui, il a 10 ans, hein, Garwan, c'est un gamin, et il fait des ricochets, mais il les fait en mathématicien, parce qu'il est très féru de calcul, et de trajectoire, et de réaction, bon. Et il élève par ailleurs ses gueules de louve, qui sont certes des végétaux, mais enfin, avec des gueules de louve quand même.
Oui.
Donc, il leur parle à travers l'hygiophone au début, parce qu'elles sont juste en train d'éclore. Et on peut penser qu'il va passer à une autre forme de relation avec elles quand elles auront grandi.
Oui, mais il faut repenser notre relation avec la nature. C'est un petit peu ce qu'on ressent aussi d'un bout à l'autre du livre, Céline Minard. Une capacité, peut-être un petit peu rousseauiste, peut-être vous avez écrit sur Rousseau d'ailleurs au début, à revenir en quelque sorte à une proximité, à une complicité, une sensualité avec la nature.
Oui, mais je crois que c'est pas revenir, c'est avancer, oui, c'est aller en avant et essayer, expérimenter, tenter. Essayer aussi d'avoir un contact, un vrai contact.
Une vraie osmose.
Non, un contact.
Alors allez-y, expliquez-nous la différence entre les
mais
deux.
Il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de confusion. Et puis les animaux ne sont pas des humains. Mais je pense qu'on peut avoir un contact. Alors voilà, c'est ça qui a inventé. Et c'est ça qui est très compliqué. Parce que c'est à la fois très immédiat et très inévident. Voilà, c'est un peu comme les textes, là, exactement. C'est ça, c'est facile et c'est pas évident du tout.
I didn't know him and I didn't know me. Cloud what color makes me wonder where you've always been. I was hiding in doubt till you brought me out of my chrysalis. And I
Casey Musgraves dans VMDN sur RFI avec Céline Minard pour son nouveau livre Plasma aux éditions Rivage, et des butterflies, des papillons, il y en a dans votre livre aussi, Céline Minard. Il est parcouru de papillons, on en croise dans plusieurs chapitres, on se dit presque d'ailleurs à la longue si pour vous le papillon c'est pas une sorte d'idéal.
Oui, c'est un monstre aussi.
Voilà, un beau monstre.
C'est un beau monstre sur la fin, oui. Parce qu'au début, il n'est pas forcément très beau, quoiqu'il y a des chenilles assez éclatantes et spectaculaires. Mais c'est vraiment un truc de métamorphose assez épouvantable quand on le regarde de près dans toutes ses phases.
Donc il y a l'œuf, il y a la chenille, il y a la chrysalide dans le cocon, et l'imago, hein, c'est-à-dire le papillon à l'âge adulte.
Voilà. Et c'est aussi un animal qu'on pense très fragile, alors qu'on peut le trouver en très haute altitude, tranquille.
Oui, donc c'est vers le papillon qu'il nous faut aller, quitte à passer par tous ces stades qui peuvent être effectivement assez rébarbatifs,
oui,
Céline Minard, voire monstrueux.
Oui, ce serait pas mal de nous penser en tant que larves, là, nous adultes, normalement développés ou à peu près, et de se dire, c'est la phase la plus moche.
Ah d'accord, donc là on en serait au tout début alors de notre métamorphose.
Oui, oui.
Ça c'est vraiment la version optimiste, hein, effectivement, pour le coup. Céline Minard, il y a aussi un chasseur de papillons dans le livre. Il est installé en Suisse. Vous l'avez pas sorti du néant, votre chasseur de papillons installé en Suisse.
Mais rien ne sort du néant.
Voilà.
Et celui-là, il sort. Oui, il est très très lié à Nabokov.
Voilà, il s'appelle Adrian. Pourquoi il s'appelle Adrian? À cause d'Adrian Lyne qui a mis à l'écran Lolita, ou
non? Il y a d'autres raisons. Non, à cause de Ada ou l'ardeur ou voilà. Et oui, c'est un petit peu dérivé, mais ça sort de Ada plutôt.
Alors, et pourquoi Nabokov s'est invité dans ce livre, Céline Minard?
Parce que lui, c'est un roi de la métamorphose et du dérangement et de la chose qui passe comme ça, de la matière très profuse qui se transforme sans cesse.
Oui, il se lamente de la disparition définitive du Yolana Iolas.
Il se lamente pas, il en
c'est
meurt.
Ça. Il en meurt, oui. Mmh. Oui, oui, voilà. Mais bon, donc le Yolana Iolas, vous les connaissez en papillon, alors apparemment. Donc c'est l'azuré du bagnaudier ou argus géant, c'est ça.
Voilà, c'est pas un papillon très rare. Ça n'était pas un papillon très rare. Et effectivement, dans ce chapitre, il l'est devenu. Et le fait de le voir ainsi disparu lui fait se remémorer une certaine scène très agréable de sa vie. Et il voit ces scènes disparaître avec le papillon.
Voilà, et il réfléchit à la métamorphose hein, du papillon. Il aurait pu aussi s'appeler Métamorphose, vous allez me dire, c'était déjà pris par Kafka, mais
oui.
Quand même, il aurait pu s'appeler Métamorphose, ce livre.
Il aurait pu, mais ça a déjà été pris par des grands comme Ovid, tout ça, donc je ne veux,
oui,
veux pas.
Oui, on ne va pas marcher sur ces traces-là. On va prendre un petit chemin de travers, discrètement. Mais est-ce qu'il a évolué, justement, comme papillon, ce livre? Est-ce que, quand vous démarrez un livre, il y a l'œuf, ensuite il y a la chenille, justement, la chrysalide, et ensuite l'imago? Vous suivez aussi ce processus-là dans votre création littéraire?
Non, je crois pas. Non, je crois. C'est plutôt comme des. Oh là là, je sais pas. C'est plutôt comme des formations de planètes. Ça arrive tout entier. Enfin, évidemment, faut l'écrire après, hein, mais faut le développer. Et c'est là que ça se construit vraiment et que ça apparaît. Mais tant que j'ai pas tout, j'ai rien. Et tant que j'ai pas tout, je peux pas commencer. Donc non, il n'y a pas de choses métamorphiques en devenir, ou alors à l'intérieur de chacun des noyaux.
Oui, alors chacun des noyaux, ça veut dire donc que vous avez fonctionné chapitre par chapitre et en même temps de façon complètement coordonnée sur l'ensemble du livre. Alors, je vous repose la question que je vous avais pas posée au début, mais qui était quand même sous-jacente. C'est un recueil de nouvelles ou c'est un roman que ce livre Plasma, Céline Minard ?
Je sais pas ce que c'est. Ça, en fait, ça m'intéresse pas tellement de savoir ce que c'est. C'est quelque chose que j'ai écrit librement et que j'ai pas besoin, moi, de classifier. C'est un certain nombre de mondes et de textes qui sont reliés par des passerelles thématiques ou langagières, par des mouvements, par des perceptions, par des volontés d'exploration et de déplacement. Et c'est effectivement ramassé à la dernière nouvelle par la Queen et son discours. Je pense vraiment que c'est le même monde dans différents possibles.
Et participer à la vie du monde en écrivant justement et en décrivant ces différents possibles, c'est une façon pour vous de vous engager à participer, espère-t-on, dans une forme de métamorphose du monde à travers l'art littéraire ?
Ah oui, ça j'y crois beaucoup. Je pense qu'on construit le monde en l'imaginant et que c'est avec l'imaginaire, par ce médium, en fait, par cette faculté aussi, qu'on peut faire avancer les choses. Et c'est de toute façon tout ce que je sais faire et tout ce que je peux faire.
C'est-à-dire que le pouvoir de la littérature, vous y croyez ?
Oui, j'y crois, puisque ça m'a construit, quand même.
Elle vous a changé, déjà, la littérature ? Elle continue de vous changer,
elle
de vous métamorphoser tous les jours ?
Oui, bien sûr, elle n'arrête pas de me changer. Et je lui demande que ça, d'ailleurs.
Merci, merci beaucoup Céline Minard. Plasma, votre dernier livre est paru aux éditions Rivage.
Marseille, nous sommes si contentes d'être ici. Quel endroit fantastique. Merci beaucoup d'être venu. Yes, yes, you're free is enough. I try to make a reason, I try to make you on course. It's you, I always got what it takes to act like it's some kind of hard ass number. I know better than that. You're way too long. Oh, oh, I saw you way too long. Oh, see, I know about your background. It wasn't easy, I know, for me so far. But that's another reason to brag. It's in the past, I learned to let it go back. Just be who you are now, yes, and who you're supposed to be.
La voix de Célassou, enregistrée en live ce week-end au festival La Fiesta des Suds à Marseille, dans le sud de la France. C'était la 30e édition de ce festival et Hortense Vol était sur place pour VMDR.
La Fiesta des Suds, c'est la promesse de prolonger l'été en bord de Méditerranée au son des musiques actuelles du monde. Alors, vous l'aurez compris, je ne rate pas le rendez-vous. Les Marseillais non plus. En ouverture, jeudi dernier, nous étions 6500 sur l'esplanade du J4, au pied du Mucem, pour les concerts du rappeur voyageur Gaël Faye, de la révélation de la chanson électronique française Hervé, de la voix du flamenco moderne Rocío Márquez, ou encore de la chanteuse New Soul flamande Célassou. La nouvelle directrice de l'événement, Nathalie Solia, était sacrément émue.
Alors ce que j'aimerais que les festivaliers retiennent de cette 30e édition, déjà, c'est qu'elle a eu lieu et qu'on ne pouvait pas en dire autant il y a quelques mois de ça. Et que là, le fait d'être là ce soir et de pouvoir en discuter avec vous, c'est tout simplement extraordinaire. Et ça fait vraiment du bien et ça faisait longtemps et on est très contents d'être là.
Le public était lui aussi plus que ravi de retrouver un événement qui, au gré de ses presque 30 ans et autres déménagements du grand dock de la Joliette au J4 en passant par les docks des Suds, a su se réinventer tout en gardant son identité.
Ce qui fait la spécificité de la Fiesta, c'est que c'est à la fois un festival de grande ampleur et en même temps un festival à taille humaine où on va se retrouver entre amis, au coin d'une table, à discuter toute la soirée, à oublier qu'on est venu voir un concert avec énormément de monde autour de nous et en même temps profiter de soirées avec des têtes d'affiches comme ce soir Woodkid, hier Célassou ou demain notre chouchou Balthazar ou Meute. Donc voilà, c'est vraiment un festival qui est très très particulier pour ça.
Chacun son chouchou. Et ils étaient plusieurs milliers à voir le même vendredi soir. Son nom, Woodkid. Il y a 8 ans, le prodige français de la pop mondiale marquait les esprits avec Golden Age, un premier album de chansons aussi romantique que symphonique vendu à 800 000 exemplaires. Barbe noire et éternelle casquette vissée sur la tête, Woodkid fait cette année son grand retour sur scène avec un sulfureux nouvel opus S16. Et être de la fête à Marseille était pour lui essentiel.
C'est ma première Fiesta des Suds. C'est pas la première fois que je joue à Marseille, par contre. Et j'avais un très très bon souvenir du concert de la tournée de The Golden Age à Marseille. Donc il était évidemment hors de question de ne pas venir. Et puis en plus, c'était important pour moi de pas décaler mon album, de le sortir pendant la pandémie, de prendre ce risque-là et de tourner les festivals dès la réouverture. Il faut savoir que c'est pas toujours facile pour l'ego des artistes parce qu'on se retrouve parfois dans des situation compliquée en termes de billetterie, etc., et des jauges réduites et des festivals, voilà, qui n'en ont pas forcément les mêmes moyens qu'ils auraient en temps normal. Mais pour moi, c'est essentiel et très important de le faire parce que si on peut aider les festivals à exister l'année prochaine, aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que ça se joue, je trouve que c'est important en tant qu'artiste. Je crois que le public en a besoin et surtout les festivals en ont besoin.
Annoncé en octobre 2020, ici à la Fiesta des Suds, le concert, que dis-je, le show de Woodkid était plus qu'attendu. Quelques heures avant de monter sur la grande scène du festival, entouré d'un orchestre de 8 musiciens, tout en cordes, cuivres et percussions, celui qui est aussi réalisateur de clips pour Lana Del Rey ou Beyoncé nous en dévoilait les principaux ingrédients.
Il y a des moments extraordinairement dansants, voire de trance techno. Donc il faut avoir le cœur un peu accroché parce que parfois c'est un volume sonore et une densité assez titanesque. Et parfois c'est la voix presque à nu et c'est du songwriting. Et c'est un peu mes deux grandes histoires d'amour. Donc forcément il y a ça et un peu tout ce qu'il y a entre les deux.
Pour Woodkid, musique et images sont indissociables. Alors si le public de la Fiesta s'est soulevé au son de beats bien lourds, il en a aussi pris plein les mirettes via des vidéos spectaculaires projetées en fond de scène. Un spectacle total pour un événement décidément festif, populaire et fédérateur qui n'a pas fini de nous faire chavirer.
Reportage d'Antan Svol avec Benjamin Sarali à Marseille. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain, quant à nous, avec Marie-Claude Pietragala et Julien Dorouot pour le spectacle La Femme qui danse, actuellement à l'affiche du Théâtre de la Madeleine à Paris. À demain donc, et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.